En studio, Brigitte Felks, hein, Brigitte, planificatrice financière pour RBC. Bonjour, Brigitte.
Bon matin, Marie-Hélène.
Et on rejoint au téléphone Yvon Dallaire, qui est psychologue et auteur, qui a beaucoup réfléchi à la chose. Bonjour, Yvon Dallaire.
Bonjour, Madame Proulx.
Bon, quand je dis que tous les couples y ont goûté au moins une fois dans leur vie, vous êtes d'accord tous les deux pour dire que les questions d'argent, c'est souvent à l'origine de bien des conflits en amour. Brigitte.
En fait, oui, effectivement, je suis contente d'avoir monsieur Dallaire avec nous aujourd'hui, mais oui, puis que vous m'invitiez en tant que banquier puis parler d'amour, ben je trouve ça intéressant aussi.
Là, c'est le fun d'avoir les deux angles. Et quand oui, on dit qu'Yvon Dallaire a réfléchi à la question, c'est pas parce qu'il s'est chicané toute sa vie pour les affaires d'argent. C'est que
mais c'est émotif l'argent, hein, tout à
ouais.
fait, c'est on est dans l'émotion.
Ben
alors,
oui. Mais Yvon, c'est vrai que c'est l'ingrédient souvent qui va
Oui, c'est l'une des deux principales causes de conflits insolubles avant, pendant et après le divorce, avec l'éducation des enfants.
Et on se trompe pas en disant que c'est probablement la principale cause de divorce.
C'est une des deux principales causes avec les enfants.
L'autre, OK, donc l'éducation des enfants puis l'argent. L'adultère
et
vient
au toit. Et ces deux sources de conflits-là sont perdues parce que quand il y a des enfants, ben, les deux amants peuvent divorcer, mais pas les deux parents. Et ça implique aussi des pensions alimentaires, des frais de dépenses pour les enfants, etc. Donc, l'argent et les enfants sont souvent interreliés. Mais même si le couple reste ensemble et que ça va bien au niveau des enfants, l'argent est une source de conflit, pour la plupart du temps, insoluble.
Insoluble, vous me découragez, M. Dallaire.
La solution, c'est que les deux partenaires aient exactement la même attitude par rapport à l'argent. Soit au niveau de la sécurité financière ou de l'insécurité financière. Si les deux sont sur la même longueur d'onde, il n'y a pas de problème. Mais en général, il y en a un des deux qui est plus en sécurité financière, qui veut profiter de son argent maintenant, alors que l'autre est plus en insécurité financière, donc il veut s'assurer son avenir en voulant dépenser le moins possible et en mettant de l'argent de côté.
Bon, donc comme il est rare que les deux soient sur la même longueur d'onde, quand vous dites que c'est insoluble, moi je veux croire qu'il y a quand même des pistes de solutions, des choses à travailler.
Ouais.
C'est ce qu'on Oui.
Je parle pas de piste de solution, moi. Je parle, et j'imagine que Mme Fuffel va être d'accord avec moi, je parle de gestion d'un problème insoluble.
Ouais,
et ça, c'est possible de gérer un problème où des gens n'ont pas, ou deux partenaires n'ont pas la même attitude par rapport au thème.
Tout à fait. Puis je trouve ça intéressant parce que le but ici, c'est pas de changer l'individu, hein. C'est d'apprendre à travailler ensemble. C'est comme une équipe. Donc, c'est d'apprendre à travailler avec ses différences, puis de se rejoindre en quelque part. Puis je pense que c'est ça la clé. Puis on va voir aujourd'hui là, de quelle façon on peut faire ça aussi. Mais effectivement, il y a toujours quelqu'un qui est plus émotif dans le couple face à l'argent. Et bien souvent, puis on veut pas... c'est sûr qu'il faut en faire une généralité. Là, il y a des cas d'exception. Mais généralement, c'est la femme qui est plus émotive face à l'argent pour différentes raisons.
Mais M. Dallaire... La femme est plus émotive, point.
En général.
Non, mais c'est vrai.
Oui. Puis M. Dallaire pourra aussi acquiescer à ça, c'est qu'on a un parcours hein, quand on est enfant, de la façon qu'on grandit, de la façon qu'on est élevé, selon nos expériences, qui fait en sorte qu'on a un bagage aussi rendu à la vie adulte par rapport à ce rapport avec l'argent. Donc, on doit aussi faire face à ça, nous aussi en tant que planificateurs financiers, d'essayer de comprendre justement c'est quoi les enjeux, c'est quoi les croyances, c'est quoi les aptitudes, les attitudes aussi, puis de dealer avec ça finalement. Là.
Et souvent dans le couple, souvent le dessin qu'on voit, là, c'est il y a une des deux personnes qui est plus dépensière.
Tout à fait.
Je le mets au féminin, mais faites ce que vous voulez avec. Et il y a souvent quelqu'un de plus insécure dans le couple.
Oui,
alors, c'est là,
fait.
J'imagine... Yvon, ça fait des flamèches quand il y en a un qui dépense trop.
Oui, et c'est là où on entre dans une des dynamiques les plus destructrices d'un couple. J'ai raison de vouloir gérer l'argent de cette façon-là et tu as tort de vouloir le gérer autrement. Alors, les deux partenaires ont, qu'on soit en sécurité ou en insécurité financière, les deux partenaires ont des arguments très valables.
Tout à fait.
C'est correct de mettre de l'argent de côté pour assurer ses vieux jours, assurer s'il y a des pépins, s'il y a des dépenses imprévues, si quelqu'un tombe malade ou perd son emploi. C'est tout à fait compréhensible de vouloir assurer comme ça une certaine sécurité financière à long terme. Mais d'un autre côté, l'autre aussi a raison. Qui nous dit qu'on va être encore en vie dans 10 ans? Alors, est-ce qu'on veut
profiter? On va en profiter.
Plutôt que ce soit nos héritiers qui en profitent.
Oui, tout à fait. Puis vous touchez un bon point parce que même dans ma pratique, je le vois souvent. Tu sais, quand je rencontre un couple, souvent je le dis, hein, puis je vois que ça argumente un peu, puis ça, il y a un petit peu d'obstination. Puis je dis, ben vous avez tous les deux raison. Et souvent, ça calme un peu les ardeurs parce que effectivement, selon les croyances et les arguments de chacun, ils ont effectivement tous les deux raison. Puis d'un point de vue financier, quand on voit que la population vieillit, qu'on vit beaucoup plus longtemps. C'est là qu'on va ramener un petit peu plus les éléments financiers pour aider à travailler avec ces couples-là, pour justement aller rejoindre certains points.
Et est-ce qu'on remarque, ils vont d'ailleurs vous le soulever assez souvent, c'est qu'au début de la relation, tous ces travers-là, chez l'autre, on les trouve cute. C'est vrai, on trouve ça le fun, notre blonde des dépenses, puis qu'elle ait un amour pour les chaussures, puis on trouve ça cute aussi que notre chum mette de l'argent de côté, puis qu'il y a un souci de mettre de l'argent pour les enfants puis la famille. Donc, tout ce qu'on trouve beau au début, après quelques années, là, ça nous irrite.
C'est ce qui m'amène à faire une blague suivante, là, qui est tout à fait respectable. C'est quoi la différence entre au début tu m'excites et ensuite tu m'énerves? C'est entre 3 et 5 ans.
Et c'est la même personne.
Oui, oui, exactement.
Mais ça prend aussi peu de temps. Et c'est vrai, Yvon, que c'est quand on commence à acquérir des biens, quand on commence à fonder quelque chose, l'achat d'une maison, quand les factures commencent à rentrer, le premier bébé, c'est là où les conflits commencent à arriver dans le couple.
Et évidemment, pendant la lune de miel, pendant la période de séduction, ça serait trivial de parler de choses aussi bas, aussi terre-à-terre que parler d'argent. Alors,
tout
on n'en parle pas, on part implicitement avec la croyance que l'autre pense et veut gérer son argent comme moi je le fais. Donc, c'est au moment où tout est bien installé, que l'autre est acquis, conquis, et que là, on commence à s'investir dans l'achat d'une maison, dans l'arrivée d'un enfant qui implique des dépenses. C'est là où, oups, des petites différences vont se confronter. Et c'est pour ça que je dis souvent, et c'est la réalité, le couple est un creuset pour générer des crises. Et le critère pronostique de l'évolution d'un couple, c'est la façon dont on va gérer, dont on va faire la gestion de crises et de sujets qui sont pour la plupart du temps insolubles.
Donc, ça veut dire d'être capable d'en parler.
Oui.
Parce qu'il y a des couples, des fois, on entend des gens se dire, nous, on parle pas d'argent. Ça nous sauve de ces chicanes-là.
Puis je pense que c'est un élément extrêmement important dans le couple, hein, parce que on va se projeter dans le futur, on va faire des projets. Puis je pense que le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir, c'est justement d'en discuter puis de se faire un plan de match, un peu comme quand on va jouer au hockey, une gang d'amis, on va se faire un plan puis on va faire une game de hockey. C'est la même chose en tant que couple. Puis je suis certaine que M. Dallaire est d'accord avec moi, la communication, c'est la clé aussi. Donc, de se dire, ben si on a la chance de s'être trouvé, on est en amour, puis on veut bâtir quelque chose, ben pourquoi pas le faire de la bonne façon, puis de commencer à planifier.
Bon, et on peut le faire en se basant sur du positif. Les
tout
deux, comme vous disiez tout tantôt, Mme Michel, les deux ont raison de leur point de vue, mais ils ont tort de ne pas accepter le point de vue de l'autre.
Tout à fait.
Et le « nous » est là pour répondre aux besoins et aux attitudes de chacun.
Donc,
il doit tenir compte des attitudes de chacun.
Si on a deux façons différentes de voir l'argent dans le couple, il faut s'attendre à devoir mettre de l'eau dans notre vin.
Le moins possible.
Ah, ben voyons, ben comment on va finir par s'entendre, Yvon?
Ben, en faisant un budget.
Je pense
un budget dans lequel on va mettre un compte d'épargne pour rassurer l'insécure. Hein, un compte d'épargne, etc. Et un compte loisir.
Mais encore,
alors, les deux sont contents.
Encore faut-il avoir assez d'argent pour faire ça, là?
Oui, c'est sûr, mais il y a déjà des formules qui existent. Je suis sûr que Mme Selke peut donner des références à ce sujet-là.
Pour
voir c'est quoi le budget, c'est quoi le pourcentage de l'argent qui rentre qu'on devrait mettre de côté et l'argent qu'on devrait utiliser pour avoir quand même du plaisir dans la vie à ce moment-ci.
Tout à fait. Puis il y a une chose que moi je dis souvent à mes clients, parce que quand on parle d'argent ou qu'on va voir un conseiller ou un planificateur financier, peu importe, les gens disent « Oh, ça va être compliqué, ça va être restrictif, ça va être négatif. » Et non, au contraire, il faut faire ça simple. Donc,
et
les
petits
trucs simples, là, c'est simplement, tu sais, on parle de budget, effectivement, mais c'est de se dire « Est-ce qu'on a un plan? » Ça veut dire, dites 3 mois, est-ce que je veux faire un voyage? Est-ce que je veux acheter une maison? Est-ce que j'ai besoin d'une mise de fonds? On va le bâtir ensemble. Comment on va faire ça? Effectivement, parce que là, on parlait, je garde sur mon compte, je devrais avoir un compte conjoint. Fait que là, on peut tomber un peu dans la technicalité. Mais avant de tomber dans la faisabilité, rêvons un peu. mettons sur papier nos projets. Puis après ça, ben mettons des chiffres au bout de ça.
OK. Au retour de la pause, Brigitte, on va donner vraiment les bases de ce à quoi ce budget-là pourrait ressembler.
Super.
Mais j'aimerais aussi qu'on parle du phénomène du surendettement, parce que la réalité, c'est qu'au Québec, on est surendetté. Souvent, la chicane, c'est pas par rapport à la planification autant que comment on va régler, dans l'urgence du moment, notre problème d'endettement. On en parle au retour. It's not about the money, money. L'argent dans le couple est-il un tue-l'amour? La réponse est oui. La réponse est oui. Yvon Dallaire le disait en tout début d'émission, mais il y a des façons de contourner ce tue-l'amour.
Moi, je vais répondre, ça dépend.
Ça dépend. Alors, nos invités, Yvon Dallaire, qui est psychologue et auteur, et Brigitte Felks, planificatrice financière pour RBC. Je vous invite à nous appeler je m'adresse aux auditeurs de l'émission, si vous avez des expériences, des choses qui pourraient peut-être servir d'autres auditeurs. Comment vous parlez d'argent dans votre couple? Est-ce que vous avez trouvé une façon de faire pour éviter de vous chicaner? Est-ce que vous avez des histoires à nous raconter aussi qui se sont mal déroulées? Ça s'est peut-être terminé par un divorce chez vous, puis peut-être que vous vous êtes dit, ben dorénavant, je vais faire les choses différemment. On aimerait entendre vos histoires. Pour les gens de Montréal, le 514-790-9850 et sans frais de partout au Québec, le 1-866-790-9850. Alors, on parlait juste avant la pause de l'importance de se faire un budget. Concrètement, ça se passe comment? Donc, on rencontre un planificateur financier, Brigitte, et l'homme et la femme sont là, puis là, ils dévoilent tout sur eux, leur salaire.
Je pense qu'il y a de toutes les formules qui peuvent être utilisées aussi. T'sais, vous pouvez le faire, il y a tellement de moteurs de recherche qui existent et d'applications qui existent quand vous faites vos recherches. Vous pouvez le faire vous-même. Je pense que l'importance, c'est d'avoir un bon vouloir, d'avoir une intention, de vouloir changer les choses, ou de vouloir planifier puis construire avec l'autre. Ça, c'est déjà la première des choses. Puis je pense que, comme on disait tantôt, tu sais, quand on est un nouveau couple puis qu'on rêve à s'acheter une maison, à voyager, je pense qu'on veut le faire ensemble aussi.
Oui.
Puis c'est peut-être la première chose aussi de regarder quel est notre style de vie. Parce que oui, on va faire un budget, mais le budget, ça peut contenir les dépenses fixes. Hein? On sait, bon, le loyer, hydro, tout ce qui est téléphone, la nourriture. Mais on n'inclut pas le style de vie, les dépenses qu'on
les
appelle
restaurants,
discrétionnaires.
Les
oui,
loisirs.
Tout à fait. Ouais. OK? Donc, il faut un peu se connaître. Donc, on établit tout ça. Puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est de dire c'est quoi nos projets à court, moyen, long terme. Et on va les lister. C'est-à-dire dans un mois, dans trois mois, dans six mois, dans un an. Puis ça aussi, il faut que ça fasse partie de la liste. Et après ça, on va avoir la couleur de ce qu'on a à dépenser. Puis, en fonction des salaires, est-ce qu'on est capable d'y arriver
mais
aussi?
Je peux imaginer, et je vais poser la question à M. Dallaire, qu'il doit y arriver que des couples qui font l'exercice se rendent compte qu'ils ne sont pas faits pour vivre ensemble. Est-ce que ça se peut, Yvon, ça?
Ben, c'est la première crise dans l'évolution d'un couple, là, parce que pendant la lune de miel, les périodes de séduction, on n'est pas en amour avec l'autre. On est en amour avec un projet, avec des sensations, des émotions. On est en amour avec l'amour. Et un jour ou l'autre, on découvre qui est réellement la personne avec laquelle on a vécu tout ces beaux moments, tous ces beaux projets, et c'est là où ça passe ou ça casse. C'est pour ça que l'année médiane actuellement pour le divorce, qui était de 7 ans il y a quelques décennies, est rendue à 4 ans et demi. Parce que on s'installe très rapidement en couple et on se rend compte que, oups, j'ai pas eu le temps de fréquenter l'autre et d'apprendre à le connaître avant de m'engager. Et là, quand je le découvre, je dis un petit peu sous forme humoristique, quand madame découvre le crapaud et monsieur découvre la sorcière, déguisé en prince et princesse, ben c'est là, oups, on passe de tu m'excitais à maintenant tu m'énerves.
Brigitte et Yvon, on a au bout du fil Philippe. J'espère qu'on n'est pas en train de le décourager parce qu'il est sur le point de s'acheter un condo avec sa conjointe. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour à tous.
Oui, alors vous êtes quoi? Vous déménagez avec votre conjointe bientôt, là?
Oui, c'est bien ça. Comme j'expliquais tout à l'heure, je suis en couple avec ma conjointe. Ça fait présentement 5 ans et demi. Donc, j'ai eu le temps de la connaître très bien et en profondeur. Et j'ai découvert des points dans la famille de ma conjointe dont l'argent est un point sensible. C'est-à-dire que quand on se met à parler de budget ou on se met à parler simplement d'argent, combien tu fais par année, qu'est-ce que tu veux mettre comme mise de fonds, ce sont des sujets sensibles. Donc, qui est carrément le contraire dans ma famille, puisque, bref, on nous sommes aisés financièrement, et puis J'ai moi-même économisé depuis longtemps pour avoir une bonne mise de fonds pour un condo à Montréal. Ils sont pas 50 000, c'est.
Mais donc, Philippe, quand vous dites sensible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne veut pas du tout parler d'argent ou ça la met mal à l'aise?
C'est-à-dire que dès qu'on ouvre la conversation avec mes beaux-parents, parce que faut en parler nécessairement, faut que j'en parle avec elle. Donc, c'est toujours réticent, c'est toujours « Ah, OK, mais là, on passe sur un autre sujet. » C'est assez fermé. Donc, pour pallier à la situation, puisque ça s'en vient à cet été, le moment de mon achat de condo, j'ai vu et préparé les démarches avec ma famille, donc avec mes parents, pour se faire. Donc, j'ai simplement été à ma succursale RBC, pour pas mentionner, hein. Puis,
Brigitte va être contente. Je souris, là.
Oui, c'est ça. Puis, donc, c'est ça. J'ai écouté mes parents sur ce comment est-ce que, et sur comment est-ce, combien est-ce qu'on place, etc. Combien il faut de cash down pour pas payer d'assurance et compagnie. Donc, ensuite de ça, j'ai invité ma conjointe à m'accompagner avec ces conversations, incluant mes parents et mon conseiller financier pour ainsi avoir une idée claire de combien est-ce qu'il faut mettre par rapport à combien est-ce qu'on gagne. Donc, moins de 40% par an, moins de 40% de notre budget mensuel.
Mais donc, Philippe, est-ce qu'elle participe avec vous à l'achat du condo ou vous l'achetez seule?
Oui. On fait 50-50, puis je veux et je l'invite à ce qu'elle m'accompagne dans le processus. Okay. On est présentement à la moitié. Les discussions sont faites. On sait où est-ce qu'on s'en va en termes de montant. Il faut juste participer ensemble.
Il me semble qu'il fait bien les choses, moi, ce garçon-là.
J'aime beaucoup, Philippe, la façon que vous incluez puis que vous respectez aussi madame dans le processus. Puis, effectivement, ça confirme que on vient pas nécessairement tous du même milieu. On n'a peut-être pas nécessairement le même aussi, la même capacité d'épargne. Et puis, je pense que oui, quand on fait intervenir une tierce personne qui est le professionnel, donc le conseiller, le planificateur financier, ben ça démontre aussi qu'on est dans une zone neutre et c'est beaucoup plus facile de travailler par la suite ensemble. Je pense que M. Dallaire peut acquiescer aussi quand on va consulter justement un psychologue. C'est justement pour nous aider et puis pour faire comprendre les choses, mais de façon très neutre. Oui. Donc, la même chose au niveau financier, c'est une très, très belle démarche.
Ben, Yvon, quand on commence, parce que eux, c'est un jeune couple, là, ils vont faire l'achat de leur première propriété ensemble. Mais, et quand on commence à parler d'argent dans le couple, inévitablement, il faut évoquer la possibilité d'une éventuelle séparation.
Pas nécessairement, non, mais c'est sûr que si l'argent devient une source là, de confrontation qui va jusqu'à l'affrontement, c'est évident qu'à ce moment-là, on est sur un terrain glissant. Mais c'est sûr que l'argent fait référence à beaucoup de nos émotions. Là. Si, par exemple, madame, dans ce cas-ci, à chaque fois que ses parents parlaient d'argent lorsqu'elle était jeune, il y avait une engueulade. Fait que c'est sûr qu'elle, c'est pas tellement par rapport à l'argent qu'elle va réagir, c'est par rapport au fait que l'argent lui rappelle des moments traumatisants de son enfance.
Mais il y en a toujours un des deux qui veut se protéger, là. Tu sais, si tu me laisses, oui, je vais pas me retrouver avec rien.
C'est un excellent point. Ouais. C'est sûr que ça, c'est un peu comme quand on parle de planification successorale. C'est pas nécessairement parce qu'on va planifier notre mort, c'est qu'on planifie vraiment tous les actifs, comment on veut que ce soit dévolu au décès. La même chose au niveau d'un couple qui est pas marié, qui s'en va vers vraiment bâtir un futur ensemble, qui vont acquérir des actifs. Comme là, dans le cas de Philippe et sa douce, ils vont avoir, une maison, possiblement, des meubles et tout ça. Puis, là, il sépare 50-50 l'achat de la maison, mais au niveau des revenus, des fois, pour les dépenses, quand on n'est pas marié ou peu importe, quand on est marié aussi, on peut vouloir avoir un prorata par rapport au salaire aussi. Donc, quand on n'est pas marié, quand tu parles, Marie-Hélène, quand on est conjoint de fait, puis qu'on se dit, faut penser à la séparation, pas nécessairement, mais de se protéger, oui. Et c'est pour ça qu'on va aller voir peut-être une partie pour se protéger. partagée qui est la convention de vie commune qui serait nécessaire à faire. On parle justement de la lune de miel, hein, comme M. Dallaire mentionne. C'est au moment où ce que ça va bien, que c'est peut-être intéressant aussi de se faire un contrat entre nous pour justement savoir qu'est-ce que je paye dans le couple en fonction de mon prorata de salaire.
C'est pour ça que je suggère personnellement aux clients qui viennent me voir sur ce thème-là de faire ce que j'appelle une assemblée générale annuelle avec comme point d'ordre du jour le budget.
Mais ça, ça m'a
Et puis ça peut être avec un petit verre de vin.
Je le sais, mais ça m'a fait sourire là, de tenir une assemblée annuelle. Tu sais, on le fait pour nos appartements, nos condos, mais de le faire avec notre conjoint.
Et on le fait dans les entreprises aussi.
Ben oui, je sais bien.
C'est ça. On peut le faire. Alors pourquoi est-ce que le couple, c'est une entreprise avec deux actionnaires à 50-50? Donc, de faire une assemblée générale annuelle, et comme dans un couple, il y a trois entités. Il y a moi, il y a toi et il y a nous. Alors, idéalement, je sais qu'il y a plusieurs formules que les banquiers et les bancaires peuvent suggérer, mais je pense qu'une, sinon la meilleure, c'est qu'il y a un compte conjoint dans lequel on va mettre les dépenses du couple et de la famille, et chacun possède son compte personnel.
On va en reparler au retour de la pause du compte conjoint. Je pense que c'est important. Mais je vais juste revenir, Yvon, pour dire que dans une assemblée, c'est toujours difficile d'en arriver à un consensus quand on est deux.
Et surtout si on a une attitude par rapport à
l'autre. Exactement. Juste avant d'aller à la pause, j'aimerais qu'on entende le témoignage d'Alain. Ça a l'air à bien se passer, lui, les histoires de finances à la maison. Bonjour, Alain.
Oui, bonjour, ça va bien?
Oui, ça va bien, merci vous-même.
Oui, ça va très, très bien. Nous, ça va faire 10 ans qu'on est ensemble le 14 janvier. Et ça se passe très, très bien. On a tout mis ensemble. On a un compte conjoint ensemble, un compte principal. Puis on a chacun un compte personnel où on passe des comptes chèques dans chacun des comptes à chaque mois. Et puis nous, on paye nos frais fixes, par exemple le loyer, le prêt auto, les assurances. Et puis on passe notre Vidéotron, notre Coudou, et puis on se garde un montant pour la nourriture à chaque mois, la restauration, et puis on met le reste en épargne.
OK.
Et puis on planifie un voyage, par exemple, aux Îles-de-la-Madeleine dans 2 ans, et puis on prévoit changer notre voiture.
Mais Alain, est-ce que ça a été nécessaire de le faire parce que vous aviez pas du tout la même façon de voir l'argent? Ou tous les deux, vous vous êtes dit, pour éviter de se chicaner, on va mettre ça clair dès le départ?
Ah, dès le départ, on savait combien on faisait chacun annuellement, puis on n'avait pas de problème. On a décidé de mettre l'argent conjointement, puis on n'avait pas de trouble avec ça. L'argent n'était pas un problème pour nous. Puis on n'est pas des gens dépensiers, on n'est pas des gens qui ne boivent pas non plus beaucoup d'alcool, et puis on n'est pas des gens qui sont... On n'est pas exagéré dans rien non plus.
Bon, mais merci beaucoup de votre témoignage, Alain. Merci et bonne année à vous.
Merci, bonne année. Au revoir.
Au retour, on va justement parler de ce fameux compte conjoint et de la base de ce qu'on devrait faire, là, comment on devrait diviser les dépenses par rapport au salaire de l'autre ou on fait du 50-50. On en discute au retour. Alors, partant du principe que l'argent serait l'une, il y a deux principales causes de séparation au Québec, l'éducation des enfants et les problèmes d'argent. Comment sont gérées les finances chez vous? Est-ce que ça se passe bien? Alors, on vous donne des trucs, des petits outils pour éviter que ça mène d'abord à la chicane et ensuite à la séparation. Juste avant la pause, on parlait du compte conjoint et j'ai l'impression que Brigitte et Yvon, vous avez un peu deux visions. Yvon semblait dire que le compte conjoint était important.
Oui, c'est sûr. Oui. Et Brigitte, le compte conjoint doit couvrir l'ensemble des dépenses qui touchent aux deux partenaires et aux enfants quand il y a des enfants.
Brigitte, toi, tu aimes penser que c'est du cas par cas. Il y a des gens que tu...
C'est sûr que le compte conjoint, puis je suis entièrement d'accord pour tout ce qui est les coûts fixes, tout ce qui est relié à la maison.
Okay.
Puis je veux juste extensionner de dire tout l'aspect, est-ce que c'est 50-50, est-ce que c'est 30%, 70%, est-ce que c'est tout l'un qui paye? C'est là qu'on va devoir peut-être prendre un peu plus de temps pour démystifier, c'est quoi la part de un et l'autre par rapport à ce compte. Hein? Est-ce qu'on sépare hydro moitié-moitié? Est-ce qu'on sépare le loyer moitié-moitié? C'est là qu'il faut aller
un petit
peu plus loin.
Est-ce qu'on a le droit de piger dedans pour des dépenses personnelles?
En fait, moi, ce que j'aime, c'est d'aller beaucoup plus loin. Quand je disais tantôt, bien sûr, il faut faire son budget. On le disait avec M. Dallaire tantôt, c'est extrêmement important. Mais il y a le style de vie, il y a les dépenses, puis il y a aussi nos rêves, hein, nos projets. Donc, on n'est pas obligé d'avoir juste un seul compte conjoint. Puis c'est là où je veux aller un petit peu plus loin. Vous pouvez avoir plusieurs comptes bancaires. Puis vous pouvez aussi avoir le vôtre. C'est-à-dire, pour tout ce qui est les dépenses de la maison, vous pouvez nommer votre compte bancaire dépenses maison. Il sera conjoint. Pour tous vos projets ensemble. Je veux aller comme monsieur allait aux îles de la
Madeleine. Compte épargne.
Un compte épargne, ouais. Conjoint, parce que ce sont vos projets communs aussi. Et puis, j'avais une cliente, entre autres, qui tombait enceinte, qui voulait se faire justement un compte pour projet maternité. Il y avait le paysagement de la maison, puis il y avait les vacances. On a ouvert 3 comptes séparés, justement, pour ne pas mêler
Seigneur,
les choses.
J'ai de la misère à en gérer un, moi.
Mais on les nomme. Maintenant, la beauté de ouais. tout ce qui est électronique, ouais. c'est que vous pouvez nommer vos comptes. Donc, vous pouvez vous faire des comptes séparés. Ils sont conjoints parce que les projets sont communs. Puis, ce qui restera, ben, ce sont vos propres dépenses.
Mais le compte conjoint, je sais là qu'il est indispensable, mais c'est pas pour moi une garantie de réussite.
Non, c'est sûr.
Pour l'avoir déjà vécu, j'ai déjà eu un conjoint moi qui des fois allait au restaurant puis il prenait l'argent dans le compte conjoint, tu sais, pour aller au restaurant avec des amis puis ça me choquait là.
Ouais, tout est une question ouais. de discipline. Hein?
Mettons des chiffres là-dessus. Là. Admettons que pour que ce soit plus facile à calculer, que le couple gagne au total 100 000 $. Et qu'un des deux gagne 60 000 et l'autre 40 000. Et lors de l'Assemblée générale annuelle, on arrive à des dépenses communes de 50 000. Alors moi, ce que je suggère, c'est que chacun participe aux 50 000 pour les dépenses communes au prorata de son salaire.
Tout à fait.
Donc, celui qui gagne 60 000 va mettre 50 % parce qu'on a 50 000 de 100 000, donc c'est 50 % Donc, moi, je vais mettre 30 000 dans le compte conjoint et toi, tu vas mettre 20 000 dans le compte conjoint. Il va me rester à moi 30 000 et à toi 20 000. Ce que je fais avec mon 30 000, ça ne regarde pas mon partenaire. Je vais jusque-là, moi. Ça ne regarde pas mon partenaire. Je peux faire mon argent si je veux la dépenser ou la mettre de côté. C'est mon privilège. Je peux même acheter des cadeaux et payer des voyages à mon partenaire si je le veux.
Oui,
ouais, tout à fait.
Brigitte, quelqu'un nous demandait par téléphone, advenant le décès d'un des deux conjoints,
oui.
il arrive quoi avec le compte conjoint?
Bien entendu, puis là, il y a des mythes de dire le compte est gelé, puis bon,
ben
c'est
moi,
difficile.
J'ai déjà entendu ça aussi.
Oui,
ouais.
c'est ça. Bon, c'est sûr qu'il y a toute la réglementation, à savoir, bon, ça prend un testament, il faut voir à qui est léguée la partie du conjoint, hein, parce que vous savez, exemple, vous et moi, on a un compte ensemble, ben ma succession à moi, c'est pas nécessairement légué à vous. Donc, c'est très important, surtout quand on est conjoint de fait, ou qu'il n'y a pas de convention qui stipule le décès, d'avoir un testament qui va justement nommer okay. que tout ce qui est à moi est à toi. Et donc, à ce moment-là, ça facilite le travail justement de l'institution financière qui va avoir tous les preuves et les éléments en main pour pouvoir libérer les sommes le plus rapidement possible.
Ben,
Yvon, un testament, c'est la clé. Là.
Yvon, est-ce que vous trouvez qu'il est préférable de se dire on divise tout à part égale ou de...
Au prorata.
Du salaire, tout le temps.
Oui. Si moi j'accepte de partager ma vie, de construire un couple avec quelqu'un qui gagne moins cher que moi, c'est ma responsabilité. Je dois donc en accepter les conséquences. C'est là. Parce que pour être heureux dans un couple, ça prend deux éléments fondamentaux.
Je comprends.
La responsabilité conjugale à 100% de son bout de la relation et développer son intelligence émotionnelle, relationnelle.
Mais je suis certaine qu'il y a des gens, quand ils sont devant le planificateur financier, qui se disent, pourquoi moi je paierais 60% de la maison?
Et
advenant le cas où tu me laisses dans 2 ans parce que tu as rencontré quelqu'un d'autre, tu vas en vouloir 50%.
C'est la raison pour laquelle on dit que chaque cas est unique. Il faut faire attention, oui. puis il faut être prudent de ne pas tomber dans des moules qui ne conviennent pas à tous. C'est une très, très belle formule, ce que M. Dallaire mentionne. Ça peut faire plaisir à beaucoup de gens. Dans les livres de la planification financière, on dit aussi que souvent le salaire le plus élevé va payer tous les dépenses de la famille et le coût de vie de la famille. Le salaire le moins élevé fera tous les épargnes. Ça peut être aussi une solution. Est-ce que c'est la solution? Moi, je mets un bémol. Je pense qu'il faut trouver la formule qui convient.
Selon les personnalités de chacun.
Tout à fait.
Oui, je suis parfaitement d'accord avec Mme Sells. C'est du cas par cas. Mais on peut, à partir de certaines formules générales, essayer d'aider les couples à sortir justement de l'aspect émotionnel.
Ouais. Tout à fait.
Bon, on a Eric au bout du fil qui, lui, c'est vraiment une expérience personnelle, peut-être différente de bien des cas. Bonjour, Eric.
Bonjour.
Oui, racontez-nous comment ça se passe chez vous, l'aspect finance.
Ben, c'est pas tellement compliqué. Ma femme décide et moi, je paye. C'est aussi simple que ça.
OK, donc c'est pas macho, là. Ça, c'est la vérité, là.
Non, c'est la vérité. Écoutez, ma femme a un revenu de 12 000 $ par année. J'en fais 250. Fait qu'on ne s'ostine pas trop longtemps. Là.
OK. Et vous, il n'y a aucune frustration?
Ben non, je l'ai choisi. Je le savais d'avance. Je savais qu'il n'y avait pas des gros revenus. Et j'adore cette femme-là. Et j'adore encore aujourd'hui, après 12 ans.
ça. Et monsieur qui prend la responsabilité de son choix de femme qui ne gagne que 12 000 $ par année en accepte les conséquences. Bravo.
C'est une formule qui fonctionne bien pour les deux, en fait.
Mais est-ce qu'elle paie des choses aussi ou le 12 000 qu'elle gagne, ça va pour ses dépenses personnelles?
Je vous dirais qu'en moyenne, elle va peut-être faire une épicerie là par mois ou deux par mois avec ses revenus, mais tout ce qui est, on a deux véhicules, on a un bateau, on a un chalet, on a une maison. On fait trois voyages par année, et c'est moi qui paye, puis je suis bien à l'aise avec ça.
Est-ce que vous êtes marié, Monsieur Eric? Est-ce que
non, du tout.
OK. Donc, pour les gens qui nous écoutent, là, puis qui puis on a une très belle histoire ici, mais je suis certaine qu'il y a des réflexions qui se font de dire, puis je ne souhaite vraiment rien
mais
de mal,
advenant
le cas où il y a séparation, elle perd tout. De voir le bateau et tout ça, est-ce que c'est au nom des deux? Est-ce que la maison est au nom des deux? Est-ce que monsieur a mis juste à son nom à elle et tout ça? Donc, il y a une réflexion à faire de ce côté-là. Madame a la chance de vivre une belle union avec monsieur, puis ils s'entendent bien au
mais
niveau budgétaire.
Mais si ça s'arrêtait demain?
Mais il y a vraiment une discussion à avoir de ce côté-là.
Qu'est-ce qu'on doit faire?
Qu'est-ce qu'on fait? Oui, la convention qui vit commune protégerait madame à ce moment-là, au niveau des biens, parce que tout est listé dans la convention.
Est-ce que vous l'avez fait, Eric, la convention?
Oui, ben, on s'est fait un papier mutuel, on a signé toutes les deux la feuille, là. Mais c'est pas tellement compliqué. La maison, je l'avais avant. J'avais deux voitures, je l'avais avant de la rencontrer. J'avais mon yacht, je l'avais avant de la rencontrer. J'ai dit, advenant le cas où il se passe quelque chose, le chalet, je te le donne. Ta voiture, je te donne. Puis l'argent qu'il y aura dans le compte, ça prendra.
OK, donc, ouais.
Ça a été mis par écrit.
Je fonctionne avec le principe que c'est juste de l'argent.
Mm-hmm. Oui, tout à fait. Mais c'est important, justement, cet aspect-là, de dire, bon, puis souvent, on fait plusieurs années ensemble et on bâtit vraiment une vie ensemble, un patrimoine des actifs. Et donc, justement, si les propriétés étaient là avant, la maison et tous les actifs, c'est de dire, est-ce que madame, dans ce cas-ci, ben, va se retrouver à loyer ou pas propriétaire? Donc, il y a beaucoup de questionnements. Puis les documents, la convention de vie commune, ben, comme vous avez dit, Monsieur Eric, que pas nécessairement. Vous pouvez faire une entente entre vous avec témoins, mais vous pouvez le faire aussi devant notaire avec un avocat. Il y a plusieurs formules qui existent aussi de cette façon-là, mais c'est une très bonne chose à faire, là.
Merci beaucoup, Eric, de votre appel.
Toutes les formules peuvent très, très, très bien fonctionner tant et aussi longtemps que la relation amoureuse fonctionne bien.
Tout à fait.
C'est au moment où, oups, il commence à y avoir des rancunes ou commence à y avoir des confrontations
exact.
Que là, l'argent risque de devenir le champ de bataille.
En fait, c'est tant et aussi longtemps que tout le monde est confortable avec le budget qu'on avait établi au départ.
Exact.
On s'arrête pour un petit moment. Au retour, j'ai reçu un courriel de quelqu'un qui me raconte que son conjoint lui cachait des dépenses pendant tout le temps où ils étaient ensemble. On va aborder ce sujet au retour de la pause. Alors, on a continué à discuter, Brigitte et moi, de l'éventualité d'une séparation dans des cas de où un couple ne serait pas marié. Dans le cas quand on est marié puis un contrat, ben ça devrait aller là. Tu sais, les deux devraient bien s'en sortir dans le cas d'une séparation.
Parce qu'il y a le patrimoine familial qui va protéger.
Exactement.
La famille dans le cas
mais pour
mariages.
Les conjoints de fait, s'il y a rien qui a été signé, ben il y en a un des deux. Si vous avez payé 10% de tout pendant, ben vous allez le perdre ou ça 40 ou 50%
là. On peut être 30 ans avec quelqu'un. Puis cette personne-là, en fait, on a tout payé pendant 30 ans et puis il y a une séparation et on se retrouve avec rien s'il n'y a rien qui est à notre nom. C'est pour ça que la convention de vie commune, on peut lister tout ce qu'on veut. On peut lister les biens, mais on peut lister
ça
aussi le budget.
Ça devant notaire, ça?
Ça se fait devant notaire, devant avocat. Ça peut être un document aussi. Il y en a. Faites une recherche, là, convention de vie commune. Là, vous avez des. J'ai juste le mot en anglais, mais c'est des formats sur Internet que vous pouvez retrouver déjà préfait, mais vous pouvez l'adapter à votre façon parce que vous pouvez aussi inclure votre coût de vie, vos dépenses de vie, votre style de vie. C'est-à-dire, si moi je paye pour tout qu'est-ce qui est les vacances, c'est intangible, hein, c'est pas des actifs.
Ouais.
Je paye les vacances. Je vais payer les sports pour les enfants, je vais payer l'habillement des enfants. Je peux déterminer aussi dans ma convention que moi, j'ai payé tant de pourcents dans mes dépenses et donc, il y a quelque chose qui va me revenir à la fin. C'est des ententes qu'on se crée.
Okay.
Et on le fait quand ça va bien. Hein? On le fait pas quand ça commence à aller
mal. Mais c'est important de réfléchir réfléchir à tout ça pour les gens qui nous écoutent, qui sont conjoints de fait.
Oui.
Bon, je vais revenir, Yvon, sur ce courriel que j'ai reçu d'une auditrice qui me raconte que eux, ils avaient fait ça. Là. Donc, il y avait un budget de couple, ils avaient un compte conjoint pour les dépenses conjointes. Et elle s'est rendue compte au bout de quelques années, et je pense que ça a mené à une séparation dans ce cas-ci, que lui dépensait, mais il lui cachait des dépenses, des vêtements, des affaires, des sacs de golf. Alors elle, pendant qu'elle déposait de l'argent dans le compte conjoint, elle se rendait compte que son conjoint et elle, puis souvent c'est les femmes qui le font aussi, ils pigeaient là-dedans, lui.
Ah non, si les dépenses qu'il faisait de façon à l'insu de son partenaire influençaient le compte conjoint, je pense pas que c'est l'argent qui soit en cause ici. Là. C'est la perte de confiance qui va être à la cause de la séparation, là.
Ah, effectivement. Parce que tout ça est construit sur la confiance qu'on a en l'autre.
Ben oui, ouais. Ben oui.
Puis c'est sûr que si on regarde les conséquences au niveau cartésien, si on regarde au niveau financier, bien sûr, il faut avoir des discussions parce que là, ça a vraiment un impact sur le futur, sur vraiment tous les projets de la famille.
Brigitte, quand...
Si ces dépenses-là que monsieur faisait allaient dans son compte personnel, madame n'a pas... Ben, elle doit l'accepter quelque part, là, parce qu'il a le droit de faire ce qu'il veut avec l'argent qui lui reste. Rappelez-vous, le 30 000 qu'il me reste ou le 20 000 qu'il me reste, je peux en faire ce que je veux.
Je sais bien, mais je me mets dans la place, par exemple, d'un des deux conjoints qui fait moins puis qui n'a pas les moyens de s'acheter des chaussures neuves deux fois par année, puis que son conjoint ou sa conjointe se paye la traite. Ça devient frustrant.
Oui, exactement. Mais là, c'est plus l'argent qui est en cause. Là. C'est le style de vie. Là.
Ouais. Tantôt, on n'en a pas parlé, mais je veux qu'on parle du phénomène de l'endettement. Parce que là, on est, tu sais, depuis le début, on parle de se faire un budget, de prendre un compte conjoint et tout ça, mais l'une des principales problématiques dans les couples aujourd'hui, c'est qu'on est surendetté. Puis ça va pas s'améliorer au cours de l'année qui vient, là, le problème d'endettement. On prend ça par où dans le couple quand on n'arrive pas à voir le bout, puis que, inévitablement, quand on parle de l'argent, parce qu'il n'y en a pas qui rentrent suffisamment, ça se débouche en chicane.
Je pense que Mme Selk est beaucoup mieux placée.
Oui, oui, oui. Vous devez le voir, d'ailleurs.
Ben, ouais. Et c'est sûr que moi, je dis toujours, puis je dis toujours qu'il faut faire ça simple, là, je me répète, là. Mais c'est un peu comme je décide de courir le marathon demain matin et je sais que, bon, la cible est grosse, là. Je ne commencerai pas à courir 10 km la première fois. Je vais y aller étape par étape. La première chose qu'on doit faire, c'est prendre conscience qu'il y a une n'est pas nécessairement une problématique, mais une situation, et d'aller se faire aider, donc d'aller rencontrer son conseiller, son planificateur financier, de pas se gêner d'établir aussi, de mettre sur la table la situation. Il faut vraiment travailler en collaboration, amener vos états de compte, amener la situation, amener aussi votre style de vie, parce que c'est important pour nous de, oui, on va connaître les faits, l'endettement, mais on va reconnaître aussi vos habitudes de consommation parce qu'il y a une raison à l'endettement aussi. Donc, ça aussi, il faut vraiment établir ça.
Brigitte, il doit arriver, vous devez assister à des affaires parce que vous faites un peu aussi office de psychologue. Là, quand vous vous retrouvez devant un couple qui doit planifier son avenir financier, vous devez assister à des chicanes, des fois, à toutes sortes d'affaires.
Oui? C'est sûr qu'on fait office de psychologue sans nécessairement avoir l'expertise comme M. Dallaire. Mais effectivement, on doit, la première chose, je pense, la première qualité d'un bon conseiller, d'un bon planificateur financier, c'est l'écoute. Donc, et puis de poser les questions, puis d'aller à la découverte de sans jugement, donc de ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle on invite nos clients à se livrer. C'est extrêmement important pour qu'on puisse vraiment connaître la situation. Puis par la suite, ben, se faire un plan de match. On va collaborer dans la situation et on va les aider à s'en sortir.
Donc, bon, Yvon, il nous reste deux ou trois petites minutes. Si je vous demandais deux ou trois conseils de base pour éviter que ça mène à des conflits insurmontables dans le couple.
Il faut essayer le plus possible de mettre l'argent en dehors du couple. Okay? Il faut préserver la relation amant-amante. Okay? Donc, l'argent, c'est un moyen qui peut faciliter le confort matériel ou qui peut rendre difficile si l'argent est toujours placé entre les deux et que les deux sont dans une position « j'ai raison et tu as tort ». Donc, il faut déplacer l'argent à l'extérieur du couple,
ouais,
et voir comment on peut, tous les deux, gérer un problème qui peut être insoluble si on n'a pas la même attitude par rapport à l'argent.
Moi, je retiens aussi l'idée de l'Assemblée générale annuelle. Oui. mais je trouve que c'est une excellente suggestion.
Je vais vous donner des petits points aussi rapides. Donc, discipline. N'hésitez pas à vous faire accompagner d'un professionnel, hein, parce que c'est sûr qu'on a des amis, on a de la famille. Ce ne sont pas des professionnels. Allez-y avec des professionnels. Avoir un plan. Faites-vous des plans, mais un vrai plan. Donc, sur papier ou même avec votre conseiller, gardez le cap. Donc, l'assemblée annuelle, là, revoyez-vous régulièrement. Ne faites pas ça comme une lourdeur. Prenez-vous un verre de vin, allez souper au restaurant et faites votre assemblée entre vous. Et puis, ça faire des petites récompenses au quotidien.
Et on peut aussi faire des assemblées spéciales.
Oui.
S'il arrive une dépense imprévue ou s'il arrive un montant d'argent imprévu.
Et ça peut se faire avec l'humour aussi.
Ben oui,
T'sais, on peut envoyer un courriel
Amusez-vous.
Pour convoquer notre chum à une assemblée pour discuter d'un point. Brigitte disait tantôt de le faire avec un petit verre de vin.
Tout à fait.
D'essayer de rendre la chose un peu plus
plaisante.
Sexy, parce que on va se le dire, là, c'est pas sexy parler d'argent en couple. Et moi, j'aurais aussi envie d'ajouter de ne pas attendre pour le faire. C'est que j'imagine que des fois, il y a des couples qui commencent à consulter puis à essayer de trouver des solutions alors que la situation s'est déjà envenimée.
Tout à fait.
Est-ce qu'on peut, faire ça au début de la relation de couple, Yvon?
Prévoir, c'est sûr que les deux fiancés ou les deux qui sont en train de se séduire devraient aussi parler d'argent. Mais comme je disais tantôt, c'est souvent, on n'en parle pas parce qu'on trouve ça trivial, là. Mais il faut en parler parce que de toute façon, ça va être au cœur du couple. C'est un des éléments, une des six sources de conflits insolubles qui existent entre un homme et une femme ou deux hommes ou deux femmes.
Mais comme n'importe quel projet que vous aurez, que ce soit courir un marathon, rénover votre maison, peinturer une chambre, commencez tôt à planifier. C'est le secret.
Oui, puis faites-vous des petits cadeaux. C'est important de se faire des petits moments de plaisir aussi là-dedans. Ben merci infiniment, Brigitte Felks.
Merci beaucoup
de bons conseils. Brigitte, elle est planificatrice financière pour RBC. Yvon Dallaire, psychologue et auteur. Yvon a écrit plusieurs livres, dont un qui est sorti l'été dernier, Yvon, hein, au mois d'août.
Oui, qui est « Oser l'amour, trois petits points, pour toujours ».
Oui.
C'est possible.
Ça marche. Merci beaucoup, Yvon. Une belle année 2019.
Merci
et à vous
aussi,
Brigitte. Au retour, on va parler du burn-out et de façon de s'outiller pour éviter le burn-out en 2019.